Chapitre 65. D'Artagnan trouve un projet. Athos connaissait D'Artagnan mieux peut-être que D'Artagnan ne se connaissait lui-même. Il savait que, dans un esprit aventureux comme l'était celui du Gascon, il s'agit de laisser tomber une pensée, comme dans une terre riche et vigoureuse, il s'agit seulement de laisser tomber une graine. Il avait donc laissé tranquillement son ami hausser les épaules, et il avait continué son chemin en lui parlant de Raoul, conversation qu'il avait, dans une autre circonstance, complètement laissé tomber, on se le rappelle. À la nuit fermée, on arriva à Tirsk. Les quatre amis parurent complètement étrangers et indifférents aux mesures de précaution que l'on prenait pour s'assurer de la personne du roi. Ils se retirèrent dans une maison particulière et, comme ils avaient d'un moment à l'autre à craindre pour eux-mêmes, ils s'établirent dans une seule chambre en se ménageant une issue en cas d'attaque. Les valets furent distribués à des postes différents. Grimaud coucha sur une botte de paille en travers de la porte. D'Artagnan était pensif et semblait avoir momentanément perdu sa loquacité ordinaire. Il ne disait pas mot, sifflotant sans cesse, allant de son lit à la croisée. Porthos, qui ne voyait jamais rien que les choses extérieures, lui parlait comme d'habitude. D'Artagnan répondait par monosyllabes. Athos et Aramis se regardaient en souriant. La journée avait été fatigante et cependant, à l'exception de Porthos, dont le sommeil était aussi inflexible que l'appétit, les amis dormirent mal. Le lendemain matin, D'Artagnan fut le premier debout. Il était descendu aux écuries, il avait déjà visité les chevaux, il avait déjà donné tous les ordres nécessaires à la journée, qu'Athos et Aramis n'étaient point levés et que Porthos ronflait encore. À 8 heures du matin, on se mit en marche dans le même ordre que la veille. Seulement, D'Artagnan laissa ses amis cheminer de leur côté et alla renouer avec M. Groslot la connaissance entamée la veille. Celui-ci, que ses éloges avaient doucement caressé au cœur, le reçut avec un gracieux sourire. « En vérité, monsieur, lui dit D'Artagnan, je suis heureux de trouver quelqu'un avec qui parler ma pauvre langue. Monsieur du Vallon, mon ami, est d'un caractère fort mélancolique, de sorte qu'on ne saurait lui tirer 4 paroles par jour. Quant à nos 2 prisonniers, vous comprenez qu'ils sont peu en train de faire la conversation. « Ce sont des royalistes enragés, dit Groslot. Raison de plus pour qu'ils nous boudent d'avoir pris le Stuart, à qui, je l'espère bien, vous allez faire un bel et bon procès. « Dame, dit Groslot, et nous le conduisons à Londres pour cela. Et vous ne le perdez pas de vue, je présume. Peste, je le crois bien. Vous le voyez, ajouta l'officier en riant, il a une escorte vraiment royale. Oui, le jour, il n'y a pas de danger qu'il vous échappe. Mais la nuit... La nuit, les précautions redoublent. Et quel mode de surveillance employez-vous ? 8 hommes demeurent constamment dans sa chambre. Diable, dit D'Artagnan, il est bien gardé. Mais, outre ces 8 hommes, vous placez sans doute une garde dehors. On ne peut prendre trop de précautions contre un pareil prisonnier. Oh non ! Pensez donc, que voulez-vous que fassent 2 hommes sans armes contre 8 hommes armés ?
Comment 2 hommes ?
Oui, le roi et son valet de chambre. On a donc permis à son valet de chambre de ne pas le quitter ?
Oui, Stuart a demandé qu'on lui accordât cette grâce et le colonel Harrison y a consenti.
Sous prétexte qu'il est roi, il paraît qu'il ne peut pas s'habiller ni se déshabiller tout seul.
En vérité, capitaine, dit D'Artagnan, décidé à continuer à l'endroit de l'officier anglais le système laudatif qui lui avait si bien réussi, plus je vous écoute, plus je m'étonne de la manière facile et élégante avec laquelle vous parlez le français. Vous avez habité Paris 3 ans, c'est bien. Mais j'habiterai Londres toute ma vie que je n'y arriverai pas, j'en suis sûr, au degré où vous en êtes. Que faisiez-vous donc à Paris ?
Mon père, qui est commerçant, m'avait placé chez son correspondant,
qui, de son côté, avait envoyé son fils chez mon père. C'est l'habitude entre négociants de faire de pareils échanges. « Et Paris vous a-t-il plu, monsieur ?»«
Oui, mais vous auriez grand besoin d'une révolution dans le genre de la nôtre. Non pas contre votre roi qui n'est qu'un enfant, mais contre ce ladre d'Italien qui est l'amant de votre reine. »
« Ah, je suis bien de votre avis, monsieur, et que ce serait bientôt fait si nous avions seulement 12 officiers comme vous, sans préjugés, vigilants, intraitables. Ah, nous viendrions bien vite à bout du Mazarin, et nous lui ferions un bon petit procès comme celui que vous allez faire à votre roi. »
« Mais, dit l'officier, je croyais que vous étiez à son service et que c'était lui qui vous avait envoyé au général Cromwell. »
« C'est-à-dire que je suis au service du roi, et que, sachant qu'il devait envoyer quelqu'un en Angleterre, j'ai sollicité cette mission, tant était grand mon désir de connaître l'homme de génie qui commande à cette heure aux trois royaumes. Aussi, quand il nous a proposé, à M. du Vallon et à moi, de tirer l'épée en l'honneur de la vieille Angleterre, vous avez vu comme nous avons mordu à la proposition. »
« Oui, je sais que vous avez chargé aux côtés de M. Mordante. »
« À sa droite et à sa gauche, monsieur. Peste ! Encore un brave et excellent jeune homme que celui-là. Comme il vous a décousu, monsieur son oncle, avez-vous vu ?»«
Le connaissez-vous ? » demanda l'officier.
« Beaucoup. Je puis même dire que nous sommes fort liés. Monsieur du Vallon et moi sommes venus avec lui de France. »
« Il paraît même que vous l'avez fait attendre fort longtemps à Boulogne. »«
Que voulez-vous ? » dit D'Artagnan. « J'étais comme vous, j'avais un roi en garde. »«
Ah ah ! » dit Groslot. « Et quel roi ? » ?»«
Le nôtre, pardieu ! Le petit King, Louis le XIVe !»
Et D'Artagnan ôta son chapeau. L'Anglais en fit autant par politesse.
« Et combien de temps l'avez-vous gardé ? » ?»«
3 nuits.
Et, par ma foi, je me rappellerai toujours ces 3 nuits avec plaisir. »
Le jeune roi est donc bien aimable ?
Le roi ? Il dormait les poings fermés.
Mais alors, que voulez-vous dire ?
Je veux dire que mes amis, les officiers aux gardes et aux mousquetaires, me venaient tenir compagnie et que nous passions nos nuits à boire et à jouer.
Ah oui, dit l'Anglais avec un soupir.
C'est vrai, vous êtes joyeux compagnons, vous autres Français.
« Ne jouez-vous donc pas aussi, quand vous êtes de garde ?»«
Jamais, » dit l'Anglais.
« En ce cas, vous devez fort vous ennuyer, et je vous plains, » dit D'Artagnan.
« Le fait est, » reprit l'officier, « que je vois arriver mon tour avec une certaine terreur. C'est fort long, une nuit tout entière à veiller. »
« Oui, quand on veille seul, ou avec des soldats stupides. Mais quand on veille avec un joyeux partenaire, quand on fait rouler l'or et les dés sur une table, la nuit passe comme un rêve.
N'aimez-vous donc pas le jeu ?
Au contraire.
Le lansquenet, par exemple ?
J'en suis fou, je le jouais presque tous les soirs en France.
Et depuis que vous êtes en Angleterre ?
Je n'ai pas tenu un cornet ni une carte.
Je vous plains, dit D'Artagnan d'un air de compassion profonde.
« Écoutez, dit l'Anglais, faites une chose. »«
Laquelle ?
Demain, je suis de garde. »«
Près du Stuart ?
Oui, venez passer la nuit avec moi. »«
Impossible. »«
Impossible ?
De toute impossibilité. »«
Comment cela ?
Chaque nuit, je fais la partie avec Monsieur du Vallon. Quelquefois, nous ne nous couchons pas. Ce matin, par exemple, au jour, nous jouions encore.
Eh bien ?
Eh bien, il s'ennuierait si je ne faisais pas sa partie.
Il est beau joueur ?
Je lui ai vu perdre jusqu'à 2000 pistoles en riant aux larmes.
Amenez-le alors.
Comment voulez-vous ?
Et nos prisonniers ?
Ah, diable, c'est vrai, dit l'officier. Mais faites-les garder par vos laquais.
Oui, pour qu'ils se sauvent, dit D'Artagnan.
« Je n'ai garde. »«
Ce sont donc des hommes de condition que vous y tenez tant. »«
Peste ! L'un est un riche seigneur de la Touraine, l'autre est un chevalier de Malte de grande maison. Nous avons traité de leur rançon à chacun. »«
2 000 livres sterling en arrivant en France. Nous ne voulons donc pas quitter un seul instant des hommes que nos laquais savent des millionnaires. Nous les avons bien un peu fouillés en les prenant, et je vous avouerai même que c'est leur bourse que nous tiraillons chaque nuit, Monsieur Duvallon et moi. Mais ils peuvent nous avoir caché quelques pierres précieuses, quelques diamants de prix, de sorte que nous sommes comme les avares qui ne quittent pas leur trésor. Nous nous sommes constitués gardiens permanents de nos hommes, et quand je dors, Monsieur Duvallon veille.
« Ah ah !» dit Groslot.
« Vous comprenez donc maintenant ce qui me force à refuser votre politesse, à laquelle, au reste, je suis d'autant plus sensible que rien n'est plus ennuyeux que de jouer toujours avec la même personne. Les chances se compensent éternellement, et au bout d'un mois, on trouve qu'on ne s'est fait ni bien ni mal. »
Ah, dit Groslot avec un soupir, il y a quelque chose de plus ennuyeux encore, c'est de ne pas jouer du tout.
Je comprends cela, dit D'Artagnan.
Mais voyons, reprit l'Anglais, sont-ce des hommes dangereux que vos hommes?
Sous quel rapport?
Sont-ils capables de tenter un coup de main?
D'Artagnan éclata de rire.
Jésus-Dieu, s'écria-t-il, l'un des dieux tremble la fièvre, ne voulant pas se faire au charmant pays que vous habitez, l'autre est un chevalier de Malte, timide comme une jeune fille. Et pour plus grande sécurité, nous leur avons ôté jusqu'à leurs couteaux fermants et leurs ciseaux de poche.
Eh bien, dit Groslot, emmenez-les.
Comment, vous voulez? Dit D'Artagnan.
Oui, j'ai 8 hommes.
Eh bien,
4 les garderont, 4 garderont le roi.
Au fait, dit D'Artagnan, la chose peut s'arranger ainsi,
quoique ce soit un grand embarras que je vous donne.
Bah, venez toujours, vous verrez comment j'arrangerai la chose.
Oh, je ne m'en inquiète pas, dit D'Artagnan, à un homme comme vous, je me livre les yeux fermés.
Cette dernière flatterie tira de l'officier un de ces petits rires de satisfaction qui font les gens amis de celui qui les provoque, car ils sont une évaporation de la vanité caressée.
« Mais, dit D'Artagnan, j'y pense. Qui nous empêche de commencer ce soir ?»«
Quoi ?
Notre parti ?»«
Rien au monde, dit Groslot.
En effet, venez ce soir chez nous, et demain nous irons vous rendre votre visite. Si quelque chose vous inquiète dans nos hommes, qui, comme vous le savez, sont des royalistes enragés, eh bien, il n'y aura rien de dit, et ce sera toujours une bonne nuit de passer.
À merveille, ce soir chez vous, demain chez Stuart, après-demain chez moi.
Et les autres jours à Londres. Eh, mordieu, dit D'Artagnan, vous voyez bien qu'on peut mener joyeuse vie partout.
Oui, quand on rencontre des Français, et des Français comme vous, dit Groslot.
Et comme Monsieur Duvallon, vous verrez bien quel gaillard, un frondeur enragé, un homme qui a failli tuer Mazarin entre 2 portes. On l'emploie parce qu'on en a peur.
Oui, dit Groslot, il a une bonne figure, et sans que je le connaisse, il me revient tout à fait.
Ce sera bien autre chose quand vous le connaîtrez.
Et tenez, le voilà qui m'appelle.
Pardon, nous sommes tellement liés qu'il ne peut se passer de moi.
Vous m'excusez?
Comment donc?
À ce soir.
Chez vous?
Chez moi.
Les 2 hommes échangèrent un salut et D'Artagnan revint vers ses compagnons.
« Que diable pouviez-vous dire à ce bouledogue ? » dit Porthos.
« Mon cher ami, ne parlez point ainsi de M. Groslot, c'est un de mes amis intimes. »«
Un de vos amis ? » dit Porthos. « Ce massacreur de paysans ? » ?»«
Chut, mon cher Porthos !»«
Eh bien oui, M. Groslot est un peu vif, c'est vrai, mais au fond, je lui ai découvert 2 bonnes qualités. Il est bête et orgueilleux. »
Porthos ouvrit de grands yeux stupéfaits. Athos et Aramis se regardèrent avec un sourire. Ils connaissaient D'Artagnan et savaient qu'il ne faisait rien sans but.
« Mais, continua D'Artagnan, vous l'apprécierez vous-même. »«
Comment cela ? » ?»«
Je vous le présente ce soir. Il vient jouer avec nous. »
« Oh oh ! » dit Porthos dont les yeux s'allumèrent à ce mot.
« Et il est riche ? » ?»«
C'est le fils d'un des plus forts négociants de Londres. »
« Et il connaît le lansquenet ? » ?»«
Il l'adore. » »«
La bassette ? » ?»« c'est sa folie. Le biribi, il y raffine. Bon, dit Porthos, nous passerons une agréable nuit.
D'autant plus agréable qu'elle nous promettra une nuit meilleure.
Comment cela ?
Oui, nous lui donnons à jouer ce soir. Lui donne à jouer demain.
Où cela ?
Je vous le dirai. Maintenant, ne nous occupons que d'une chose. C'est de recevoir dignement l'honneur que nous fait M. Groslot. Nous nous arrêtons ce soir à Derby. Que Mousqueton prenne les devants, et s'il y a une bouteille de vin dans toute la ville, qu'il l'achète.
Il n'y aura pas de mal non plus qu'il préparât un petit souper, auquel vous ne prendrez point part, vous, Athos, parce que vous avez la fièvre, et vous, Aramis, parce que vous êtes chevalier de Malte, et que les propos de soudards comme nous vous déplaisent et vous font rougir. Entendez-vous bien cela ?
Oui, dit Porthos, mais le diable m'emporte si je comprends.
Porthos, mon ami, vous savez que je descends des prophètes par mon père et des sibylles par ma mère, que je ne parle que par parabole et par énigme, que ceux qui ont des oreilles écoutent et que ceux qui ont des yeux regardent, je n'en puis pas dire davantage pour le moment.
Faites, mon ami, dit Athos, je suis sûr que ce que vous faites est bien fait.
Et vous, Aramis, êtes-vous dans la même opinion ?
Tout à fait, mon cher D'Artagnan.
À la bonne heure, dit D'Artagnan, voilà de vrais croyants, et il y a plaisir d'essayer les miracles pour eux. Ce n'est pas comme cet incrédule de Porthos qui veut toujours voir et toucher pour croire.
Le fait est, dit Porthos d'un air fin, que je suis très incrédule.
D'Artagnan lui donna une claque sur l'épaule, et comme on arrivait à la station du déjeuner, la conversation en resta là.
Vers les 5 heures du soir, comme la chose était convenue, on fit partir Mousqueton en avant.
Mousqueton ne parlait pas anglais, mais depuis qu'il était en Angleterre, il avait remarqué une chose, c'est que Grimaud, par l'habitude du geste, avait parfaitement remplacé la parole. Il s'était donc mis à étudier le geste avec Grimaud, et en quelques leçons, grâce à la supériorité du maître, il était arrivé à une certaine force. Blaisois l'accompagna. Les 4 amis, en traversant la principale rue de Derby, aperçurent Blaisois debout sur le seuil d'une maison de belle apparence. C'est là que leur logement était préparé. De toute la journée, ils ne s'étaient pas approchés du roi, de peur de donner des soupçons, et, au lieu de dîner à la table du colonel Harrison, comme il avait fait la veille, ils avaient dîné entre eux. À l'heure convenue, Groslot vint. D'Artagnan le reçut, comme il aurait reçu un ami de 20 ans. Porthos le toisa des pieds à la tête et sourit en reconnaissant que malgré le coup remarquable qu'il avait donné aux frères de Perret, il n'était pas de sa force. Athos et Aramis firent ce qu'ils purent pour cacher le dégoût que leur inspirait cette nature brutale et grossière. En somme, Groslot parut content de la réception. Athos et Aramis se tinrent dans leur rôle. À minuit, ils se retirèrent dans leur chambre, dont on laissa, sous prétexte de surveillance, la porte ouverte. En outre, D'Artagnan les y accompagna, laissant Porthos aux prises avec Groslot. Porthos gagna 50 pistoles à Groslot et trouva, lorsqu'il se fut retiré, qu'il était d'une compagnie plus agréable qu'il ne l'avait cru d'abord. Quant à Groslot, il se promit de réparer le lendemain sur D'Artagnan l'échec qu'il avait éprouvé avec Porthos et quitta le Gascon en lui rappelant le rendez-vous du soir. Nous disons du soir, car les joueurs se quittèrent à 4 heures du matin. La journée se passa comme d'habitude. D'Artagnan allait du capitaine Groslot au colonel Harrison et du colonel Harrison à ses amis. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas D'Artagnan, il paraissait être dans son assiette ordinaire. Pour ses amis, c'est-à-dire pour Athos et Aramis, sa gaieté était de la fièvre.
« Que peut-il machiner ?» disait Aramis.
« Attendons, » disait Athos. Porthos ne disait rien, seulement il comptait l'une après l'autre dans son gousset, avec un air de satisfaction qui se trahissait à l'extérieur, les 50 pistoles qu'il avait gagnées à Groslot. En arrivant le soir à Ryston, D'Artagnan rassembla ses amis.
Sa figure avait perdu ce caractère de gaieté insoucieuse qu'il avait porté comme un masque toute la journée. Athos serra la main à Aramis.
« Le moment approche ? » dit-il.
« Oui, » dit D'Artagnan qui avait entendu. « Oui, le moment approche. Cette nuit, messieurs, nous sauvons le roi. » Athos tressaillit, ses yeux s'enflammèrent.
« D'Artagnan, » dit-il, doutant après avoir espéré.
« Ce n'est point une plaisanterie, n'est-ce pas ? Elle me ferait trop grand mal. »«
Vous êtes étrange, Athos, » dit D'Artagnan, « de douter ainsi de moi. Où et quand m'avez-vous vu plaisanter avec le cœur d'un ami et la vie d'un roi ? Je vous ai dit et je vous répète que cette nuit, nous sauvons Charles Ier. Vous vous en êtes rapporté à moi de trouver un moyen. Le moyen est trouvé. »
Porthos regardait D'Artagnan avec un sentiment d'admiration profonde. Aramis souriait en homme qui espère. Athos était pâle comme la mort et tremblait de tous ses membres.
« Parlez, » dit Athos.
Porthos ouvrit ses gros yeux. Aramis se pendit, pour ainsi dire, aux lèvres de D'Artagnan.
« Nous sommes invités à passer la nuit chez M. Groslot. Vous savez cela ?»«
Oui, » répondit Porthos. Il nous a fait promettre de lui donner sa revanche.
« Bien, mais savez-vous où nous lui donnons sa revanche ?»«
Non, chez le roi. »«
Chez le roi ?» s'écria Athos.
« Oui, messieurs, chez le roi. Monsieur Groslot est de garde ce soir près de sa majesté et, pour se distraire dans sa faction, il nous invite à aller lui tenir compagnie. »«
Tous quatre ?» demanda Athos.
« Pardieu, certainement, tous quatre. Est-ce que nous quittons nos prisonniers ?»«
Ha ha !» fit Aramis.
« Voyons !» dit Athos palpitant.
« Nous allons donc chez Groslot, nous avec nos épées, vous avec des poignards. À nous quatre, nous nous rendons maîtres de ces 8 imbéciles et de leur stupide commandant. Monsieur Porthos, qu'en dites-vous ? » ?
« Je dis que c'est facile, » dit Porthos.
« Nous habillons le roi en Groslot. Mousqueton, Grimaud et Blaisois nous tiennent des chevaux tout scellés au détour de la première rue. Nous sautons dessus et avant le jour, nous sommes à 20 lieues d'ici. Est-ce tramé, cela, Athos ? »
Athos posa ses deux mains sur les épaules de D'Artagnan et le regarda avec son calme et doux sourire.
« Je déclare, ami, dit-il, qu'il n'y a pas de créature sous le ciel qui vous égale en noblesse et en courage. » Pendant que nous vous croyions indifférents à nos douleurs, que vous pouviez sans crime ne point partager, vous seul d'entre nous trouvez ce que nous cherchions vainement. Je te le répète donc, D'Artagnan, tu es le meilleur de nous, et je te bénis et je t'aime, mon cher fils.
Dire que je n'ai point trouvé cela, dit Porthos en se frappant sur le front, c'est si simple.
Mais, dit Aramis, si j'ai bien compris, nous tuerons tout, n'est-ce pas ?
Athos frissonna et devint fort pâle.
« Mordieu, dit D'Artagnan, il le faudra bien. J'ai cherché longtemps s'il n'y avait pas moyen d'éluder la chose, mais j'avoue que je n'en ai pas pu trouver. »
« Voyons, dit Aramis, il ne s'agit pas ici de marchander avec la situation. Comment procédons-nous ? »
« J'ai fait un double plan, répondit D'Artagnan.
« Voyons le premier, dit Aramis.
Si nous sommes tous les quatre réunis, à mon signal, et ce signal sera le mot enfin, vous plongez chacun un poignard dans le cœur du soldat qui est le plus proche de vous. Nous en faisons autant de notre côté. Voilà d'abord 4 hommes morts. La partie devient donc égale puisque nous nous trouvons 4 contre 5. Ces 5-là se rendent et on les bâillonne ou ils se défendent et on les tue. Si par hasard notre amphitryon change d'avis et ne reçoit à sa partie que Porthos et moi, dame, il faudra prendre les grands moyens en frappant double. Ce sera un peu plus long et un peu bruyant, mais vous vous tiendrez dehors avec des épées et vous accourez au bruit.
« Mais si l'on vous frappait vous-même, dit Athos.
« Impossible, dit D'Artagnan. Ces buveurs de bière sont trop lourds et trop maladroits. D'ailleurs, vous frapperez à la gorge, Porthos. Cela tue aussi vite et empêche de crier ceux que l'on tue. »
« Très bien, dit Porthos, ce sera un joli petit égorgement. »
« Affreux, affreux, dit Athos. Bah, monsieur l'homme sensible, dit d'Artagnan, vous en feriez bien d'autres dans une bataille. D'ailleurs, ami, continua-t-il, si vous trouvez que la vie du roi ne vaille pas ce qu'elle doit coûter, rien n'est dit, et je vais prévenir monsieur Groslot que je suis malade.
Non, dit Athos, j'ai tort, mon ami, et c'est vous qui avez raison. Pardonnez-moi.
En ce moment, la porte s'ouvrit et un soldat parut.
« Monsieur le capitaine Groslot, dit-il en mauvais français, fait prévenir monsieur d'Artagnan et monsieur du Vallon qu'il les attend. »«
Où cela ? » demanda d'Artagnan.
« Dans la chambre du Nabucodonosor anglais, » répondit le soldat, puritain renforcé.
« C'est bien, » répondit en excellent anglais Athos, à qui le rouge était monté au visage à cette insulte faite à la majesté royale.
« C'est bien. Dites au capitaine Groslot que nous y allons. »
Puis le puritain sortit. L'ordre avait été donné au laquais de sceller 8 chevaux et d'aller attendre sans se séparer les uns des autres, ni sans mettre pied à terre, au coin d'une rue située à 20 pas à peu près de la maison où était logé le roi.